à vous qui nous retrouvez sur AWR, la Radio Mondiale Adventiste, pour votre nouveau programme de la Voix de l'Espérance en français qui vous est proposé et présenté par Oscar Miani. C'est donc parti pour les 30 prochaines minutes ensemble. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, par internet ou aussi grâce à votre téléphone. D'ailleurs, je vous en rappelle tout de suite les numéros qui ne sont absolument pas surtaxés. Alors si vous voulez nous écouter avec votre téléphone depuis la France, eh bien vous composez le 01 80 14 44 77. Si vous êtes en dehors de France, eh bien vous composez le 00 33 1 80 14 44 77. Et depuis les États-Unis, eh bien c'est le 1 712 432 9 978. Alors aujourd'hui, au programme, nous vous proposons votre rendez-vous santé avec le docteur Jean Lindsay. Ensuite, ce sera votre émission Top Cuisine. Et pour finir, ce sera un temps de réflexion avec le pasteur Pierre Péchou. Tout de suite, donc, pour commencer, voici Sentez-vous bien. Bienvenue pour notre nouvelle émission de Sentez-vous bien, une émission de santé avec le docteur Jean Lindsay. Bonjour docteur.
Bonjour Oscar.
Alors merci de nous rejoindre à ce micro. Aujourd'hui, vous revenez avec un livre que vous nous avez déjà présenté lors d'une émission précédente. Il s'agit du Grand désordre hormonal de Corinne Lalot qui est paru aux éditions du Cherche Midi assez récemment. Alors, c'est un sujet qui génère un peu d'inquiétude hein, et qui est notamment autour des perturbateurs endocriniens. Pourtant, pour que les choses changent, il est important d'en parler hein, finalement, docteur Jean Lindsay.
On peut d'autant plus en parler que le problème est déjà réglé pour un certain nombre d'entre eux.
Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour commencer.
Ah oui, 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 tout à fait. Oui.
Et alors de quoi vous voulez parler aujourd'hui? Sur quoi vous souhaitez vous arrêter?
On rappelle dans le livre de Corinne Lalot que la première alerte est venue de Rachel Carson. C'est une biologiste marine américaine qui, dans les années 60, a écrit un livre qui s'appelle en français « Printemps silencieux ». Parce que, à l'époque, on répandait du DDT de façon massive pour détruire les parasites de l'agriculture.
Qu'est-ce que c'est du DDT ?
Dichlorodiphényltrichloréthane. Mm-hmm. C'est un puissant poison du système nerveux des insectes et qui était censé n'avoir aucun effet sur l'homme. Et on en mettait jusqu'à 150 kilos par hectare.
Ça commence à en faire, là.
Ça fait un petit peu. Et de ce fait, eh bien, Rachel Carson s'était aperçu qu'on avait un printemps silencieux. C'est-à-dire, comme il n'y avait plus d'insectes, eh bien, il n'y avait plus d'oiseaux.
Donc, oui, voilà, ça va de pair.
Donc, on n'entendait plus chanter les oiseaux. Et Rachel Carson s'est aperçu que il y en avait partout, que ça avait diffusé dans tous les espaces vivants et se concentrait petit à petit. C'est-à-dire que vous avez d'abord des pesticides dans les champs, ensuite ça va aller chez les animaux qui mangent des plantes, puis les carnivores vont manger ceux qui mangent des plantes, puis les gros carnivores, les petits carnivores, et ainsi de suite. Ce qui fait que vous arrivez à avoir jusqu'à une concentration dans l'eau de 0,02 parties par million dans l'eau, mais qu'à la fin, ça fait 400 parties par million dans les poissons, et ça fait les oiseaux qui mangent les poissons, eux, ils arrivent à 2600 parties par million.
C'est de manière exponentielle, quoi.
Ça se concentre.
Un peu de manière exponentielle.
Ah, ça se concentre dans la chaîne du vivant.
Bon. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que le DDT, depuis, est interdit.
Ah oui, non, mais il a été interdit en 71.
Très rapidement,
oui,
en fait.
Très vite. Mais après, il y a la rémanence, c'est-à-dire que ça reste dans la chaîne du vivant, ça modifie l'épigénétique, bon, faut attendre que tout ça se stabilise.
Donc évidemment, ça fait aussi partie des perturbateurs endocriniens.
Ah oui, c'est l'archétype du perturbateur endocrinien.
Et puis, on a d'autres exemples comme ça?
Puis surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que Carson avait observé quand même qu'il y avait une explosion des cancers humains. On avait 4% de décès.
De manière concomitante?
Elle avait observé que dans les zones où il y avait du DDT, on avait en 1900 4% de décès par cancer et on était à 15% en 58.
Ah oui, c'était très significatif.
Oui. Et on avait tous les modèles. Elle-même est morte d'un cancer du sein à 52 ans. Amère coïncidence, comme le dit Corinne Lalot. Alors, on a réagi relativement rapidement. Le DDT est arrivé avec la fin de la guerre. C'est les Américains qui ont amené ça. Au début, c'était vu comme un progrès parce que ça permettait de se débarrasser des moustiques, des parasites. Bon, on a appris à faire avec. Maintenant, il est interdit. On avance quand même beaucoup par essais et erreurs. Hein, on apprend de nos erreurs.
On apprend de nos erreurs, exactement. Ouais, ouais, ouais. C'est aussi à l'origine de la masculinisation de certaines espèces.
Alors oui, l'autre exemple qu'on donne, problème qui est derrière nous, déjà, hein, c'est le phénomène de l'impôt sexe. C'est l'affaire des escargots de mer. Ça a été découvert par un biologiste qui s'appelle Stephen Blaber. Et il s'était aperçu qu'un petit escargot, le pourpre petite pierre, qui servait dans l'Antiquité pour obtenir la couleur pourpre. Mmh. Eh bien, ces petits mollusques sont normalement très nombreux sur les côtes anglaises. Ils avaient beaucoup diminué. Et il s'était aperçu que les femelles avaient un pénis. C'est-à-dire qu'elles étaient hermaphrodites, en somme. Et on s'est aperçu que c'était dû à de la perturbation endocrinienne.
À ces produits qui étaient répandus?
Oui, surtout, c'est le tributylétain. C'est l'anti-fouling qu'on met sur les coques de bateau pour empêcher que les algues s'y fixent, qui ont fait que sur le bassin d'Arcachon, les huîtres commençaient à disparaître. Dans les années 70, la production d'huîtres du bassin d'Arcachon est réduite à néant. Leurs coquilles sont mal formées, elles ne se reproduisent pas. La cause s'est finalement identifiée, c'est un pesticide à l'étain, le TBT, tributylétain, contenu dans les peintures anti-fouling qui servent à protéger la coque des bateaux. En 81, le biologiste Beckman Smith attribue aussi au tributylétain le problème des coquillages anglais.
Voilà, donc en fait, ce produit en particulier.
Voilà, deux bonnes nouvelles, hein, en fait, puisque là, le problème...
Ce produit-là aussi est,
le DDT a été un, le tributylétain a été un.
Voilà, à bientôt, docteur Jean Lincey. C'était Sentez-vous bien, une émission de santé. À la semaine prochaine.
Au revoir. Oscar.
Vous aussi, votre santé vous intéresse? Alors si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage « Santé et bien-être » des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement sur simple demande de votre part à france@awr.org.
The Voice of Hope.
Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale avventista.
La voce della speranza.
Top Cuisine, une émission savoureuse et bonne pour la santé, présentée par Oscar Miani.
Bienvenue pour notre émission Top Cuisine. Nous avons le plaisir aujourd'hui de retrouver Jasmine-Hélène Lopez. Bonjour.
Bonjour Oscar.
Alors donc, vous nous accompagnez régulièrement ici à ce micro dans notre émission Top Cuisine pour nous parler de cuisine et notamment de cuisine saine. Et alors aujourd'hui, vous nous proposez un gratin de courge au lait de coco. Alors, de quelle courge est-ce qu'il s'agit exactement?
C'est une courge butternut.
Donc type butternut, elle a des propriétés cette courge, parce que je crois qu'elle est bonne aussi pour la santé hein, en particulier.
Oui, apparemment la courge, elle est très bonne. C'est un légume déjà des saisons hivernales et c'est très bien pour combattre les virus.
D'accord.
Donc ça va renforcer les systèmes immunitaires. Donc c'est un légume qui c'est très bien pour manger pendant l'hiver.
De toute façon, comme ça arrive en hiver, on le mange l'hiver.
C'est bien, parce que c'est le fruit de la saison.
Voilà. Pour faire ce gratin de courge, Jasmine-Hélène, de quoi est-ce qu'on va avoir besoin? Alors, bien évidemment, d'une courge.
D'une courge, bien sûr.
Butternut, comme on vient de le dire.
Oui, mais après, vous pouvez utiliser d'autres courges.
En plus de la courge, il nous faudra du lait de coco, ça on l'a compris. Combien est-ce qu'il en faut?
200 ml de lait de coco, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive...
Oui.
Un oignon, une gousse d'ail et le sel, poivre, persil et fromage râpé à la fin pour ceux qui aiment bien le fromage.
Top Cuisine.
Et donc, pour préparer ce gratin de courge au lait de coco, par quoi est-ce que vous commencez là, Jasmine-Hélène?
Déjà, on va déjà préchauffer le four Et puis, on va prendre notre courge.
Oui.
On va la laver parce qu'on va utiliser la peau aussi. On va bien la laver. On va la vider.
Oui, parce qu'il y a des graines à l'intérieur.
Il y a des graines à l'intérieur, on va tout enlever et on va la couper en petites tranches.
D'accord. Dans le sens de la longueur ou de la largeur?
Comme vous voulez.
D'accord.
Ça dépend de la décoration que vous voulez faire dans votre assiette.
D'accord.
Ça peut être dans la longueur, comme vous dites, ou sinon en rond.
D'accord.
Le plus important, c'est la couper en tranches.
D'accord.
Et puis, on va la saisonner avec un peu de sel, poivre. Et on va l'arroser avec huile d'olive.
Mais pas trop d'huile d'olive quand même, un petit peu.
Non, hein. Oui, j'ai mis 3 cuillères d'huile d'olive. Et puis ça dépend de la quantité.
3 cuillères à soupe ou...
3 cuillères à soupe.
3 cuillères à soupe d'huile d'olive.
Oui.
D'accord.
Mais ça dépend si ça c'est une grande courge.
Ça dépend de la grandeur, de la, la grosseur de la courge.
Oui, mais sinon vous pouvez utiliser une cuillère ou deux cuillères.
Et alors donc, une fois qu'on a fait ça, on l'a disposé dans un plat, c'est ça?
On va le disposer dans un plat,
oui.
Dans un plat au four, si large, parce qu'il faut que chaque tranche ait sa place, et puis on va l'enfourner.
D'accord. Et ça, pendant combien de temps?
Alors ça, le temps, on va se dire 10 minutes, mais on va laisser cuire la courge d'un côté et de l'autre côté après. On va la tourner.
Donc, le principe de base, c'est qu'on enfourne d'un côté pendant 10 minutes.
Oui.
On retourne la courge.
Oui.
Et on enfourne à nouveau 10 minutes pour cuire de l'autre côté.
Oui.
Donc, une fois qu'on a cuit la courge des deux côtés, qu'est-ce qu'il faut faire?
On va l'enlever du four.
Oui.
Et on va préparer à côté dans une sauteuse. Ou en même temps que la courge est dans le four, hein, on peut préparer à côté.
Pour gagner du temps.
Oui, pour gagner du temps. Dans une sauteuse, on va rajouter l'oignon, l'ail haché, les deux hachés et un peu d'huile d'olive. Un tout petit peu d'huile d'olive, on va faire revenir à feu doux pendant 5-10 minutes, le temps que l'oignon il soit mou.
Pas grillé par contre.
Non, non, pas grillé parce que c'est pas bien pour la santé.
Ah, donc voilà.
De préférence, rajouter un peu d'eau.
D'accord.
Une cuillère à soupe, deux cuillères à soupe.
Avec,
d'eau.
Avec l'huile.
Avec huile. Mmh. Comme
d'accord.
Ça, ça va pas griller.
D'accord.
Ça va cuire doucement.
Mmh.
Et après, on va rajouter le lait de coco. Et après ça, la quantité, c'est vous aussi à voir. J'ai mis 200 millilitres de lait de coco.
Oui.
Mais pour ceux qui peut-être n'aiment pas trop le lait de coco, ils peuvent mettre un peu moins.
Oui.
Ou pour ceux qui aiment bien, ils peuvent mettre plus.
C'est au choix. Selon le goût de chacun.
Selon le goût de chacun. Mmh. Voilà.
Et avec ce lait de coco.
On va rajouter à la préparation qu'on a fait avec oignon et l'ail.
D'accord.
On va bien mélanger. On prend la préparation qui est, voilà, la courge qui était dans le four. La cuisson, ça dépend aussi de chacun. Il y en a qui aiment bien cuite, il y en a qui aiment quand c'est
plus ferme.
Plus ferme.
Mm-hmm.
Ça aussi, c'est au choix.
D'accord. Mais en général, vous laissez ça combien de temps au four?
10 minutes chaque côté.
Top cuisine.
Oui, ça, une fois que la courge elle est cuite des deux côtés, c'est fait. Mais ensuite, vous redisposez la courge dans le plat avec la sauce dont vous nous avez parlé, là.
Oui, oui. Mm. Une fois la courge cuite, on la lève du four.
Oui.
On prend la sauce qu'on vient de faire avec le lait de coco.
Oui.
On va la verser par-dessus de la courge.
Voilà. Et puis, on met le fromage pour terminer.
Oui.
Et donc, on remet tout au four.
On remet au four 10 minutes, c'est
bon. Le temps que le fromage fonde.
Le temps que ça gratine un peu.
Et on sort du four.
On sort du four.
C'est prêt à manger.
On sert.
Voilà, ça donne envie.
Chaud. On sert, il faut que ça soit chaud.
Et c'est un plat complet.
Il fallait peut-être accompagner avec un peu du riz.
Du riz, par exemple.
Des pâtes, pour ceux qui aiment. Mmh, Un peu de...
Donc un petit accompagnement à côté.
Un petit accompagnement de côté.
Voilà, merci beaucoup Jess-Mylène Lopez.
De rien.
C'était le gratin de courge au lait de coco.
Oui.
Et c'était une recette que vous nous proposez dans cette émission Top Cuisine. On se retrouve bientôt pour une nouvelle proposition de recette, Jess-Mylène. De quoi est-ce que vous nous parlerez?
La prochaine fois, j'ai pensé à vous proposer un dessert.
Dessert.
C'est panna cotta au lait de coco, encore.
Oui.
Amandes et mangue.
Alors, on se régale d'avance. À bientôt. Merci. Au revoir, Jess-Mylène.
Au revoir. Merci.
C'était Top Cuisine, présenté par Oscar Miani.
This is Adventist World Radio. The voice of hope.
Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale avventista.
La voce della speranza. La, 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 la.
think about the cross, the price you paid, the life you gave. I fall on my knees to worship you in sweet surrender. Oh, I give you my praise. And Lord, I'm in awe of your majesty, your majesty. And Lord, I am lost in your love for me, your love for me. Oh, when I stop and think about the cross, oh, the price you pay.
C'est toujours la Radio Mondiale Adventiste. Vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Espérance avec Oscar Miani au micro et toute l'équipe. Juste avant, c'était Top Cuisine que vous retrouverez mercredi prochain à la même heure. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes, sur internet aussi, sur les www.awr.org ou encore par téléphone. À présent, c'est le pasteur Pierre Péchou qui vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion.
Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchou sur ses qualités qui nous rendent riches pour le bien de tous.
Qualité de ce qui est doux, qui n'est ni dur ni âpre, ce qui fait sur les sens une impression agréable. Transposée à la personne, la douceur est la délicatesse du cœur. je cite ici Philippe Laurent, conférencier, coach et formateur, qu'un journaliste de L'Express interviewait il y a quelques années pour un article intitulé « Au travail, la douceur n'est pas une faiblesse ». Je ne sais pas quelle image vous avez spontanément à l'esprit lorsqu'on évoque la douceur. Je ne vais pas être très original, mais personnellement, j'ai le souvenir de la tendresse de ma mère, de la façon qu'elle avait de me prendre dans ses bras, de me faire un câlin. La douceur d'une mère est d'ailleurs une expression connue. Et si je ne suis pas très original dans mon exemple, je sais être privilégié de pouvoir le citer comme un vécu. On pourrait dire d'une personne inconnue et fréquentée le temps d'une soirée seulement, « Tiens, j'ai trouvé cette personne très douce ». On a l'impression que ce terme de douceur peut facilement définir un caractère. Je vous dis cela parce qu'on peut aussi passer la même soirée avec une personne joyeuse et le remarquer. « Tiens, j'ai trouvé cette personne d'humeur joyeuse ». Mais il sera difficile de savoir si cette joie correspond au caractère profond de la personne ou si c'était juste une bonne humeur passagère. Alors que souvent une personne douce exprime un trait de caractère plus profond. La douceur est plus quelque chose que l'on dégage qu'un état de l'humeur à un moment donné. Mais attention, lorsque je dis cela, je ne veux pas dire que la douceur serait forcément innée et ne pourrait pas s'apprendre. Peut-être, sûrement, effectivement, que certaines personnes naissent avec un caractère doux. Mais si ce n'est pas le cas, on peut toujours décider d'agir avec douceur, jusqu'à en faire un mode d'être. L'expression populaire, d'ailleurs, ne dit-elle pas, on obtient plus par la douceur que par la force. Je suis persuadé qu'au-delà des traits de caractère qu'on peut avoir à la naissance, je pense ici au tempérament, je suis persuadé que toutes les bonnes choses à être peuvent se découvrir et s'apprendre. Il me semble donc important, si l'on ne se considère pas comme une personne particulièrement douce, de se laisser interpeller par l'importance de la douceur. Mais ceci étant dit, on pourra toujours se demander en quoi la douceur serait une valeur importante à vivre. Il me semble que la douceur constitue une espèce de point d'ancrage, de base, qui rend possible ou crédible le vécu d'autres valeurs. Je suis peut-être trop optimiste ou idéaliste, mais je pense que nous avons tous à cœur de vivre parfois certaines valeurs, mieux que nous sommes capables de les vivre, celles qui nous semblent importantes, sans cependant arriver toujours à le concrétiser. Je crois que chercher à se comporter avec douceur peut permettre plus facilement d'atteindre l'objectif recherché qui serait d'incarner d'autres valeurs. Je prendrai un exemple tout simple qui vaut ce qu'il vaut et qui est personnel. Certains d'entre vous se reconnaîtront peut-être dans la difficulté que j'ai à rester calme au volant. Ce qui veut dire, hélas, ma difficulté à être toujours respectueux de la personne qui se trouve dans l'autre véhicule. Souvent, j'ai du mal à vivre ce respect auquel je crois chacun a droit. Entre nous, parfois je peux tout à fait justifier mon comportement au regard de la conduite déroutante de certains automobilistes. Mais je dois reconnaître aussi que très souvent, mon comportement n'est pas justifié et que je fais parfois les mêmes choses que celles que je reproche aux autres. Alors pour essayer de changer mon comportement, j'ai fait l'expérience, avant de démarrer ma voiture, de décider d'être doux. Je ne le verbalise peut-être pas avec le mot de douceur, mais je décide d'être calme et de ne pas m'énerver. Eh bien, c'est absolument fantastique. À la place de mon klaxon, j'utilise mon sourire et à la fin de mon trajet, je vous assure que je suis bien plus heureux et que j'ai été beaucoup plus respectueux des autres. Vivre la douceur pour vivre d'autres valeurs. Ce n'est sûrement pas un hasard, ni anodin, si la Bible, en s'adressant aux croyants, va justement souvent associer la douceur à une autre valeur. Si je prends quelques passages du Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous invite à vivre amour et douceur, humilité et douceur, respect et douceur. Et dans un autre passage, il nous invite à être pacifique et conciliant, plein de douceur. Et lorsque le même apôtre Paul nous décrit le Christ, la douceur du Christ est associée à sa bienveillance. En vous partageant ma petite expérience de conducteur moins stressé, je me fais la réflexion que parfois, et pas seulement en voiture, j'aimerais être plein d'amour et bienveillant, humble ou homme de paix, plein de respect, mais que je bute souvent sur les limites de mon caractère. Comme nous venons de le voir dans la Bible, chacune de ces valeurs est associée à la douceur. Et si je cherchais simplement à être doux, parce qu'ainsi les gens verraient aussi parfois en moi de la bienveillance, du respect, de l'humilité.
C'était Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchaud.
Vous vous sentez isolé, désorienté, perdu, en recherche ? L'IEBC, l'Institut de la Bible par correspondance, vous accompagne et vous propose des cours gratuits à suivre chez vous et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer. Parce que croire, c'est la vie.
Notre émission est maintenant terminée, c'était la Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance. Je vous donne rendez-vous dès demain à 4h30 sur les 6155 kHz bande des 49 mètres, à 8h sur les 15145 kHz bande des 19 mètres et à 20h sur les 9780 kHz bande des 31 mètres. Je vous souhaite une très bonne continuation, que Dieu vous bénisse, à demain.